Sur la question de la taille du campus, oui, le projet est ambitieux, mais grand ne veut pas dire démesuré. C'est un site qui se développe, dont on a toujours dit qu'il se développerait en lien et de façon mesurée en fonction de la demande, notamment de la demande pour et l'entraînement et l'inférence des modèles d'intelligence artificielle. Mistral s'est fait connaître au début. Au-delà de la France, précisément par l'efficacité de l'entraînement qu'ils menaient, où ils arrivaient à des résultats égaux et parfois meilleurs que les modèles concurrents, notamment américains, et certaines des entreprises américaines dont sont issus Tim et Arthur et toute l'équipe qui est à la tête de Mistral. Donc voilà, cette idée d'IA frugale, elle est au cœur même de leur ADN. Et nous, ce qu'on a l'ambition de faire, c'est pas de faire un projet démesuré qui viendrait finalement répliquer à une échelle inférieure ce qui se fait à Abilene au Texas par OpenAI par exemple ou dans d'autres sites aux États-Unis où je souhaite le rappeler, un, on parle de capacité de calcul très supérieure, 5, 6, 10 gigawatts avec une utilisation d'énergie qui vient de centrales à gaz, gaz issu de gaz de schiste. Souvent utilisés dans des cycles, dans des fonctionnements à cycle simple, donc même pas des cycles combinés qui utilisent la récupération de la chaleur pour utiliser des turbines à vapeur et améliorer l'efficacité des systèmes. Voilà, donc nous, on a quand même un choix très différent, à la fois en termes d'échelle, d'augmentation de la capacité du site en fonction des besoins, d'infrastructures énergétiques sous-jacentes. Donc je pense que quelqu'un mentionnait dans le chat, est-ce qu'on est en train de faire un projet qui est en adéquation avec nos valeurs européennes? Oui, en tout cas, c'est l'intention et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre dans l'implémentation de ce projet.
Merci beaucoup.
Pardon, Jean-Baptiste, ouais.
Oui,
Je veux juste reprendre ce qu'il y avait. Est-ce que toutes les utilisations de l'IA sont indispensables, souhaitables et avec en fait une question rhétorique de Monsieur Abitboul? Je pense qu'on est tous d'accord ici que il y a trop d'énergie, trop de tokens qui sont utilisés pour, j'en sais rien, moi, faire des vidéos de chats animés et ce genre de choses. En tout cas, ce serait mon opinion. Je pense en revanche que ça n'est pas aux acteurs de l'infrastructure physique d'aller imposer ces contraintes. En fait, un but peut être louable, mais il faut avoir le bon outil législatif ou régulatoire pour aller attaquer chacun de ces sujets-là. Et je pense sur le sujet des usages de l'IA, c'est sans doute quelque chose qui doit se faire à un niveau différent d'intervention. Encore une fois, sans dire que on ne peut pas contribuer, mais voilà, on n'a pas en tant qu'infrastructure physique la visibilité des données granulaires qui passent dans les serveurs. On est ni la CIA, ni la DGSE. Et donc, quand bien même on aurait cette aspiration, quand bien même on aurait ce droit, on ne serait pas en mesure, nous, de venir sélectionner les usages. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est encourager des programmes dans l'éducation, des programmes de recherche qui vont vers une IA plus frugale, qui vont vers ces modèles dits de chain of thought plutôt que l'entraînement de toujours le pari de plus de puissance de calcul appliqué à plus de données avec des gigawatts et des gigawatts en espérant toujours une singularité unique qui viendrait nous libérer de tous nos problèmes, y compris environnementaux, ce qui est parfois un peu l'optimisme technologique affiché par certains aux États-Unis et auquel nous, en tout cas, on ne souscrit pas du tout. Je pense qu'il y avait un sujet sur la dépendance, la décentralisation infrastructurelle de Madame Coelho. Il faut quand même rappeler à l'origine pourquoi les data centers existent. Les data centers existent parce qu'il est bien plus logique, du point de vue de la logique économique, ce qui bénéficie donc à l'État, aux individus, à tout le monde, d'avoir des infrastructures centralisées pour avoir des économies d'échelle. Il est bien plus utile d'avoir 1 000 serveurs dans un data center plutôt que d'avoir 1 000 serveurs sous votre bureau, chacun connecté à une multiprise différente, etc. Donc, c'est quand même, il y a une logique économique de base qui justifie l'existence des data centers. Et ensuite, il est des usages, notamment pour l'entraînement de l'intelligence artificielle, où de toute façon, on n'aurait pas cette possibilité de décentralisation parce que L'entraînement des modèles suggère l'échange de données à une vitesse très importante qui requiert que les serveurs soient au même endroit. Voilà, donc il y a à la fois des raisons économiques et des raisons techniques qui font que cette décentralisation ne serait pas possible. Le sujet, donc, ça n'est pas de se dire est-ce qu'en fait le choix des data centers est un choix américain et nous on peut prendre une voie complètement différente sans servir de data center. Non, la question c'est en quoi consiste notre dépendance, où est-elle dans la chaîne? Est-elle au niveau de l'utilisation de, par exemple, de la source de notre électricité? Ça, ce serait le cas de l'Allemagne qui s'est rendu compte au moment de la guerre en Ukraine de sa dépendance au gaz russe. Ok, bon, bah nous, check, on n'a pas cette dépendance. Tant mieux. Et plutôt que d'exporter des terawatts d'énergie, des terawattheures d'énergie par an vers l'Allemagne, pourquoi ne pas en faire? Continuons à leur en donner un petit peu s'ils en ont besoin, ce sont nos voisins. Mais si on peut en faire un levier de compétitivité pour nous, autant garder un peu plus de la valeur ajoutée sur le sol français. Voilà. Donc ça, c'est sur l'énergie. Ensuite, pour suivre sur le, comment dire, où peut être la dépendance, elle peut être au niveau du bâtiment, elle peut être au niveau des technologies, que ce soit les technologies de refroidissement ou la plus évidente, les puces. Et elle peut être enfin au niveau du logiciel. Voilà, donc je pense qu'il est important, c'est lorsqu'on parle de souveraineté, réfléchir à où sont ces différents éléments de dépendance, les reconnaître et se dire comment en fait on reconstruit ce mur avec des briques successives, tout en reconnaissant que en partant de la situation actuelle, qui est une dépendance très forte dans le domaine des data centers, où en fait une partie importante de nos données va être traitée à l'étranger simplement parce qu'on n'a même pas les infrastructures sur le territoire aujourd'hui, où les puces sont presque intégralement étrangères et où la couche logicielle est également étrangère, voilà, bah comment on reconstruit à partir de là? Donc ça, c'est l'ambition du projet, c'est de contribuer à cette reconstruction. Un, en faisant en sorte qu'une partie des infrastructures soit sur place. Deux, en ayant des règles soutenues par la BPI, notamment pour privilégier les acteurs français et européens du logiciel et du cloud, parce qu'encore une fois, la dépendance est beaucoup au niveau du logiciel, pas seulement au niveau des infrastructures. Voilà, donc c'est une façon d'y contribuer. Mais enfin, en reconnaissant que souveraineté, ça n'est pas fermeture, qu'aujourd'hui, 80% des services numériques en France reposent sur l'infrastructure cloud de trois grands acteurs étrangers et que il n'est pas possible de développer un site de grande capacité sans utiliser ou sans répondre à une partie de ses besoins, même si on souhaite s'en départir et évoluer vers plus d'indépendance, pas à long terme, à court et moyen terme.
Profiter de mon temps de parole pour répéter que, alors moi je suis plutôt spécialiste de logiciel, donc en regardant cet aspect particulier, je considérerais que Campusia est un succès si c'est vraiment une insistance sur deux choses. La première, c'est les logiciels libres, et la deuxième, c'est des opérateurs de cloud européens. Et pour l'instant, dans le projet, c'est pas clair. Donc, encore une fois, je garde un avis assez réservé là-dessus parce que pour moi, si on veut arriver à une vraie souveraineté, ça passe par là. C'est-à-dire, si on continue à filer toutes nos données, tout notre cloud à des entreprises qui sont très très bonnes, qui ont des super produits, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on a aussi des entreprises européennes qui arrivent à faire des belles choses. Et je pense que si on veut devenir souverain, bah, il faut insister sur ce qu'on fait bien, c'est-à-dire les logiciels open source et les entreprises européennes qui se battent dans cette dimension. Voilà, c'était ma pièce pour faire avancer la machine.
Merci. À d'autres occasions. Là où, en revanche, on ne va pas être d'accord, c'est que nous, notre objectif, ce n'est pas de nous débarrasser intégralement des GAFAM. Ce qu'on veut, c'est un rééquilibrage. C'est qu'il y ait une diversité d'acteurs, favoriser la montée en puissance d'opérateurs de cloud européens. Parce que oui, on pense que c'est peut-être là qu'il y a le plus gros point de dépendance. Il existe aujourd'hui des solutions intermédiaires qui sont ces approches dites de cloud souverain, qui sont en fait des partenariats entre les acteurs étrangers et des acteurs locaux. Mais voilà, à terme, pour avoir une vraie indépendance technologique, il faut maîtriser la technologie. Et donc, je pense favoriser avoir le développement d'acteurs cloud, pas seulement français, parce que l'échelle est trop petite. Il faut qu'on ait des clouds à l'échelle européenne, justement, pour avoir de vraies alternatives. la façon dont le projet y contribue, c'est avec cette préférence pour leur donner de la capacité qui, encore une fois, n'est pas seulement une aspiration, on aimerait bien faire ça, on communique dessus, mais qui est ancrée dans le projet. La BPI ne travaille pas de façon cachée pour les GAFAM. La BPI a travaillé avec la DGE, la Direction générale des entreprises à Bercy, en se disant, mais justement, un projet de cette ampleur-là, c'est intéressant parce qu'on va concentrer une partie des infrastructures dans un lieu et ça nous permet d'avoir un contrôle dessus d'une façon qu'on n'aurait absolument pas si on était dans le cadre de 10 projets 10 fois plus petits. Parce qu'à ce moment-là, voilà, on va pas aller mettre en place une infrastructure qui permet de surveiller comme ça les parts de déploiement vers les clients directs, vers les usages finaux. Bah, en fait, il faut savoir où taper. Et pour ça, il faut avoir un projet de grande, il faut avoir un ou quelques projets de grande taille où on peut mettre en place ce type d'infrastructure. Sur qu'est-ce qu'on a à prendre des GAFAM? Pardon, mais je vais aller dans. Je sais que c'est l'air du temps de dire que on s'en fiche des Américains et qu'on n'a pas besoin d'eux. Il faut quand même rappeler, les trois fondateurs de Mistral étaient tous avant dans des entreprises américaines. Certains sont passés par Stanford aux États-Unis après avoir été à l'école polytechnique. Et donc, on a des choses à apprendre d'eux. Et on bénéficie aussi d'être exposé à leur savoir dans le domaine des infrastructures, etc. Bien sûr, on souhaite tous ici en être de plus en plus indépendants, mais une approche consistant à dire ne faisons aucun data center, notre approche, et on n'a pas besoin de puissance de calcul pour l'IA, tout va être frugal en laissant ça pas très bien défini, ça va pas non plus résoudre nos problèmes de souveraineté. Et au contraire, moi je dirais que ça va nous emmener dans plus de dépendance. Oh, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci aux intervenants dont je souhaite que tout le monde sache qu'ils sont ici à titre gracieux parce que le sujet les intéresse et qu'ils souhaitent contribuer. Donc voilà, d'autant plus reconnaissant à leur égard pour leur participation. Et enfin, dernier message, le débat ne s'arrête pas maintenant. Vous avez notre contact. On est ravis de répondre à plus de questions. Inversement, nous, ça nous aide d'avoir vos commentaires, vos recommandations, vos idées. Donc n'hésitez pas à reprendre contact ou participer à ces prochains événements de la concertation. Merci beaucoup à tous.
Merci à tous, très bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.